La psy poussa le cendrier en verre devant elle. Malgré les stores aux trois quarts baissés, un rayon de soleil traversa la pièce et révéla les arabesques de fumée en suspens. Vous voulez bien me raconter comment tout a commencé ? L'homme écrasa sa cigarette d'un tour de poignet. C'est une histoire qui a plusieurs commencements, dit-il. La psy faisait nerveusement tournoyer son stylo entre ses doigts. Il était évident que l'homme en face d'elle l'intimidait. Vous savez au moins pourquoi vous êtes là ?
Parce que j'ai tué deux personnes.
Vous craignez que ça devienne une habitude ?
Vous n'en avez tué qu'une, en légitime défense qui plus est.
Pour le second cas, sec et impatient, l'homme ne la laissa pas terminer. Un membre de mon équipe est mort. C'est ma responsabilité. Ça revient au même. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un paquet de cigarettes en mauvais état. Entre les doigts de la psy, le stylo tournait de plus belle.
Personne n'a vécu ce qui vous est arrivé. Personne n'oserait vous juger. Je voudrais simplement que l'on reprenne du début, ensemble.
Depuis le meurtre ou l'évasion de prison ?
Un peu avant.
Alors à partir de l'enlèvement du gosse ?
C'est un bon départ. Et s'il vous plaît, n'oubliez rien.
L'homme haussa les épaules et s'alluma une nouvelle cigarette.
Je vois vraiment pas l'intérêt, puisque ma décision est prise. J'insiste. De plus, dans ces circonstances, cet entretien est obligatoire, vous le savez.
Il tira une large bouffée, puis il céda, à contre-cœur.
Je m'appelle Coste, Victor Coste. Je suis capitaine au SDPJ 93.
3 mois plus tôt, centre pénitentiaire de Marveille, district 2, cellule des arrivants. Amoureux fou, presque dépendant, limite étouffant. Alors, elle avait manqué d'air. Et plus elle s'éloignait, plus il s'enfonçait dans une dépression morbide. Trop de médicaments et des nerfs devenus difficilement contrôlables. Un soir, valise dans l'entrée, elle lui dit adieu. Mais il refusa d'y croire, faisant barrage entre elle et la porte. Alors elle lui parla de l'autre homme, et quelque chose dans son cerveau se déconnecta. Il passa en mode attaque. Il la frappa une première fois sur le visage. Sous le choc, elle perdit l'équilibre et posa un genou au sol, effarée de ce tout premier geste de violence, le nez en sang. Puis il regarda ses lèvres, pensant qu'un autre les avait embrassées. Et il recommença, encore et encore, allongé sur elle, à la frapper d'un poing et de l'autre, en voyant la tête valdinguer de gauche à droite, comme un artiste furieux lacère sa toile. Les flics avaient écrit dans leur constatation que le visage de la victime était concave, tout rentré à l'intérieur. Les urgentistes tentèrent de sauver son œil gauche, sans succès. Il avait vu un psy pendant sa garde à vue et avait eu quelques cachets pour le maintenir calme. Mais rien depuis plus de 20 heures. Rien depuis le passage devant le juge des libertés qui avait décidé de sa détention provisoire. Il était passé des geôles du tribunal à la cage du fourgon cellulaire, puis de la cage aux cellules individuelles de la prison de Marveille, réservées aux nouveaux arrivants pour leur première nuit. Avant que la porte de bois et de métal se referme derrière lui, il demanda au surveillant « Comment va-t-elle ? » Le surveillant avait la moitié de son âge et tenta de jouer à l'adulte.
« Recule d'un pas que je ferme la porte !»«
Vous allez revenir ? Faut pas me laisser sans cachet, là !»
Demain, tu vois le chef de détention pour ton évaluation. Tu lui feras une demande officielle pour voir le psy et t'auras tes médicaments sous 2 semaines, si tout va bien et surtout si tu te tiens bien, que tu recules d'un pas et que je ferme la porte.
D'accord, mais pour ce soir ? Le surveillant posa sa main sur l'extincteur lacrymo accroché à sa ceinture et le détenu fit un pas en arrière.
Ok, ok, alors juste une cigarette et du feu, c'est possible ? J'ai pas fumé depuis 3 jours.
T'es pas tout seul. Laisse-moi terminer ma ronde et je repasse te voir. Centre pénitentiaire de Marveille. Vidéosurveillance, 23h30. Sur les moniteurs de contrôle, les cellules des arrivants affichaient toutes le même tableau. Chaque nouveau détenu était assis sur son lit, incapable de dormir, les yeux dans le vide, à essayer de réaliser la situation. Surtout, de l'accepter. L'espoir allonge le temps et use les nerfs. La résignation permet d'être en paix. Accepter sa peine est le seul moyen de la supporter. Mais cette acceptation peut prendre du temps. En cellule numéro 6, le détenu se leva. Dans la salle de contrôle, les deux surveillants de nuit passaient à table, se relayant avec leur boîte micro-ondable pour réchauffer leur gamelle. Le détenu s'entoura de ses draps, puis de sa couverture, et s'assit au milieu de sa cellule. La gamelle d'un des surveillants tournait dans le micro-ondes, réchauffant un gratin de la veille. Une première fumée s'échappa des draps et de la couverture synthétique. À bonne température, le micro-ondes émit son tintement de clochette. Le plat était prêt. Le surveillant attrapa son Tupperware, l'ouvrit sans grande conviction et constatant que la petite table avait déjà été squattée par le repas et les magazines de son collègue, il se dirigea vers la chaise des écrans de contrôle. Il déposa ses couverts, déplia sa serviette, leva les yeux et hurla.
« Feu ! Putain, y a le 6 qui se fout le feu !»
Les flammes prirent tant d'ampleur que l'écran perdit les pédales et ne rendit plus qu'une image blanche. Au pas de course, les deux surveillants rejoignirent celui de ronde que les hurlements avaient alerté. Il avait déjà déroulé une partie de la lance à incendie et les trois se mirent à la tirer en direction de la cellule numéro 6, tout au fond du couloir. La dernière, évidemment.
« Tirez, merde, tirez !»
Celui qui venait de gueuler, visiblement le chef d'équipe, s'adressa au surveillant de ronde.
« De Marco, va ouvrir la cellule, qu'on l'inonde! Dépêche !»
Ils dépassèrent la 3, puis la 4, manquèrent de tuyaux, tirèrent plus fort, défaisant un nœud, gagnèrent un mètre, dépassèrent la 5 et s'arrêtèrent net, tuyaux tendus à rompre, à 50 cm exactement de l'entrée de la cellule 6. Sans aucune possibilité de le tourner vers la fournaise et d'y envoyer la moindre goutte d'eau. De Marco restait devant la porte qu'il avait ouverte, paralysé face à cette boule d'une intense luminosité, entourée de flammes assez hautes pour lécher les murs et le plafond. Les draps et la couverture fondaient, ne faisant plus qu'un avec la peau dans une fusion de tissus, de plastique et de chair, et cette odeur de viande grillée.
« La lance est trop courte ! Ah, c'est impossible ! Tirez, putain ! De Marco, merde ! Donne-nous un coup de main !»
Mais les trois hommes auraient pu avoir la force de 6, que cela n'y aurait rien changé. Il manquait, depuis son installation, un mètre à cette lance dont la fonctionnalité n'avait jamais été testée par l'administration. L'un des surveillants courut chercher un extincteur. La peau et la chair avaient déjà été consumées, laissant maintenant la graisse brûler dans une fumée âcre et noire. Le prisonnier ne criait plus depuis de longues secondes. Deux extincteurs vidés plus tard, la mousse blanche chimique faisait un bonhomme de neige du corps carbonisé. Le chef d'équipe appela ça un barbecue. Il assura que ce n'était pas le premier qu'il voyait, mais voulut tout de même épauler le nouveau, celui qui était de ronde.
« On pouvait rien faire, ok? Tu m'entends, De Marco ?»
De Marco n'avait pas décroché un mot, et il était fort probable qu'il n'ait pas non plus entendu le soutien de son responsable d'équipe. Il ne sembla se réveiller qu'à la remarque suivante.
« Il va falloir faire remonter l'info à la rotonde pour faire doubler les fouilles des arrivants. Comment ce type a-t-il pu se foutre le feu ?»
À cette question, le ventre de DeMarco se serra. Il laissa sa main glisser le long de sa cuisse pour descendre vers sa poche de treillis. Vide. Le chef surveillant remarqua que le nouveau était passé de blanc choqué à livide malade.
« T'aurais jamais dû assister à ça pour ta première semaine, DeMarco. Je suis désolé. Je vais demander à ce que t'aies un jour de repos. »
DeMarco acquiesça sans bruit et se dirigea vers les toilettes, laissant les autres persuadés qu'il allait s'y retourner l'estomac. Une fois seul face à la glace, il se mit fébrilement à fouiller les poches de sa veste.
Vide, elle aussi.
Il manqua de perdre conscience et se maintint droit grâce au mur. De son côté, le responsable des surveillants réveilla en plein milieu de la nuit le chef de détention, son supérieur direct, propriétaire d'un charmant pavillon à Marveille, dont les lumières s'allumèrent au fur et à mesure qu'il passait d'une pièce à l'autre, écoutant les mauvaises nouvelles pendues au téléphone. Son subalterne poursuivit son rapport.
« Vu la tête du nouveau, je pense que c'est lui qui a laissé son briquet au détenu. »«
Sûr ?»«
C'est moi qui ai fait sa fouille d'arrivée, il avait rien sur lui. »
Le chef de détention se remplit un verre d'eau fraîche à la cuisine et d'un geste rassurant, invita sa femme, adossée au chambranle de la porte, à retourner se coucher.
« Bon, donnez-lui quelques jours de repos. S'il vient vous voir avec des remords, vous me l'envoyez. Profitons-en, la pénitentiaire n'est pas comptable de ses morts. »